Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la série « Les mots de », nous allons nous préoccuper aujourd'hui des mots de la diplomatie, avec un expert en la matière qui est le professeur Jean-Paul Pancratio, professeur de droit international à l'université et qui est également le directeur du Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Coëquinan. Bonjour professeur.
Bonjour, chers collègues.
Vous avez écrit récemment un dictionnaire de la diplomatie dans lequel vous reprenez beaucoup de problèmes de vocabulaire, car comme tous les métiers très spécialisés, la diplomatie a un vocabulaire très particulier qui n'est pas toujours compréhensible du commun des mortels. Merci d'abord de cet exercice sémantique et nous pourrions peut-être commencer à explorer ce domaine en nous penchant tout simplement sur le mot « diplomatie ». Qu'est-ce que la diplomatie ?
Évidemment, c'est le début de tout bon dictionnaire qui entame ce domaine. Disons que le mot « diplomatie » est venu assez tard dans le langage, parce qu'on a eu des ambassadeurs bien avant d'avoir des diplomates. Autant à partir du 15e, 16e siècle, on a parlé des venant de l'italien, des ambasciatori. On a parlé du mot diplomate et de diplomatie guère avant la Révolution française de 1789. Grosso modo, c'est un Français justement, un révolutionnaire en 1791 qui l'emploie le premier.
Voilà. Donc c'est un vocabulaire récent.
Le mot diplomatie, c'est un vocabulaire récent, mais on peut noter que le mot lui-même n'est pas sans lien avec le diplôme, puisque la science, l'étude de la science des diplômes, en quelque sorte, s'appelle la diplomatique, et la diplomatie vient aussi de là. C'est-à-dire le diplôme, à l'origine, c'était en quelque sorte la lettre de créance que l'ambassadeur avait sur lui et qui faisait foi auprès du prince étranger. Donc, c'était roulé comme un diplôme, et le mot, on estime que le mot est venu de là.
Bon, donc le diplomate est le porteur du diplôme.
Il est finalement un porteur de documents, un porteur de diplôme.
Très bien. Donc vous venez d'évoquer le mot lettre de créance. Qu'est-ce qu'une lettre de créance ?
Alors la lettre de créance, c'est le document que présente quand il arrive dans son nouveau poste l'ambassadeur au chef d'État qui le reçoit. On dit le chef d'État de l'État accréditaire, l'État qui envoie l'ambassadeur, c'est l'État accréditant, et l'État qui reçoit, c'est l'État accréditaire. Donc le chef de l'État accréditaire reçoit l'ambassadeur, et lors de cette audience très solennelle, et où il s'enferme quelques minutes en privé, etc., il y a l'introducteur des ambassadeurs, c'est-à-dire le chef du protocole du président qui les présente, etc. On va chercher l'ambassadeur à sa résidence privée dans certains pays comme le Japon ou la Grande-Bretagne ou le Danemark ou la Suède en carrosse. Et c'est ce qui n'est peut-être pas très agréable l'hiver, mais qui peut l'être en été.
J'ai remarqué que la reine d'Angleterre a toujours une bonne couverture sur les genoux.
Oui, absolument, absolument. Et donc, lors de l'audience solennelle de remise des lettres de créance, l'ambassadeur remet au chef d'État solennellement ce document qui, sur le plan protocolaire, doit être un in-folio, c'est-à-dire, on appellerait ça aujourd'hui un format A3. C'est un document qui se plie, donc une grande page en quelque sorte, pour qu'on puisse l'ouvrir
solennellement,
avec un grand geste des bras.
Et peut-être pour qu'il ne soit pas imitable.
Absolument, oui. Oui, c'est un format protocolaire.
Oui, parce que l'authenticité des actes diplomatiques a longtemps posé problème, vu la difficulté et la lenteur des liaisons internationales.
Oui, absolument. Donc là, c'était en plus les lettres de créance. Mais je vais revenir sur le véritable sens de créance. Les lettres de créance étaient souvent présentées dans ce qu'on appelle un portefeuille. et qui pouvait être un Marocain d'ailleurs.
Oui.
Marocain, c'est un cuir indéformable qu'on ne produit plus aujourd'hui, mais qui était fait à partir de la peau d'une chèvre de l'Atlas, une chèvre du Maroc.
D'où le nom.
Marocain, ouais. Il y a encore des livres qui sont reliés en cuir marocain à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque du Quai d'Orsay. On peut en trouver, ils sont absolument très très bien conservés dans ce cuir. Alors, les lettres de créance, ça signifie, dans le mot créance, il y a croire. C'est-à-dire, c'est la lettre d'un chef d'État à un autre chef d'État qui lui demande de croire en tout ce que lui dira son ambassadeur, en quelque sorte.
Très bien, donc.
Et l'ambassadeur fait créance.
Fait créance, donc.
À partir de cette...
La relation diplomatique repose, tout comme le droit international, sur la confiance.
Absolument,
c'est la bonne foi.
Oui, absolument. C'est la base de la bonne relation diplomatique. D'ailleurs, les ambassadeurs et les agents diplomatiques en général disposent d'immunité, hein, ce qu'on appelle les privilèges et immunités diplomatiques, qui les protègent de toutes les atteintes qui pourraient leur être portées au sein de l'État accréditaire, soit par les autorités publiques, la police, soit par les ressortissants de l'État. La contrepartie de ces immunités, c'est de respecter la confiance de l'État hôte, en quelque sorte. Donc de ne pas en abuser, de ne pas en profiter pour commettre des crimes et délits qui ne pourraient pas être poursuivis parce qu'ils seraient protégés par l'immunité. Donc c'est tout le système de la relation diplomatique est un système de confiance.
De confiance. Donc ouais. C'est un métier, en principe, où il n'y a pas de voyous.
On peut en trouver, malgré tout.
Malgré tout. Je dois dire que votre dictionnaire de la diplomatie, qui est une coédition de Bussac-Dalloz, dont la deuxième édition sortira à l'automne, je crois,
pour
septembre-octobre,
quelques semaines près.
Est une mine d'anecdotes, d'indications, de références. C'est à la fois très instructif, mais aussi très amusant à lire. Avez-vous dans votre dictionnaire quelques séquences à nous proposer ?
Écoutez, je me suis, pour tout dire, amusé à faire une rubrique « gaffe diplomatique ». C'est inévitable dans un dictionnaire de la diplomatie quand même.
Mais quelquefois, les excellences font des gaffes.
Ah oui, les...
Parlez-nous voilà. Des excellences d'abord.
Alors, on va parler d'abord de l'excellence. C'est un mot qui c'est un titre qui était attribué à l'origine uniquement au Monseigneur, c'est-à-dire à l'ambassadeur du pape, l'ambassadeur pontifical, c'est-à-dire au nonce apostolique, absolument. C'était un titre ecclésiastique qui s'appliquait au cardinal. Hein. Et comme certains cardinaux ont pris des fonctions diplomatiques à partir du moment où le pape, le souverain pontife, a envoyé des ambassadeurs aux États, c'est-à-dire à peu près vers le 14e, 15e siècle, eh bien, les cardinaux, que l'on appelait déjà excellence, ont continué, étant ambassadeurs, à s'appeler excellence. Donc, après, le terme a été appliqué à l'ensemble des ambassadeurs. Mais, préciser que lorsque l'on dit excellence, ça s'adresse à un ambassadeur étranger. Lorsque nous rencontrons un ambassadeur de notre propre pays, on lui dit monsieur l'ambassadeur, on ne lui dit pas excellence. Donc c'est l'ambassadeur étranger que l'on appelle excellence, pour l'honorer.
Une marque de respect vis-à-vis d'un envoyé étranger.
Qui représente un État souverain, une puissance souveraine étrangère.
Donc en principe, les excellences sont excellentes, elles sont parfaites.
Pas toujours. Pas toujours, heureusement d'ailleurs. Oui, on revient au gaffe. Donc,
oui.
Il y a quelques anecdotes amusantes, bien sûr, dans ce domaine. Il faut d'ailleurs être assez humble vis-à-vis des gaffes, parce qu'on en fait tous à un moment ou à un autre de notre vie. Et quand un ambassadeur est fatigué, quand il a, ça peut arriver, un peu bu, les cocktails sont nombreux quand même, mais ils servent c'est un élément relationnel très important, bien, ils peuvent commettre des gaffes. Et puis, par méconnaissance aussi, parfois, ce sont souvent les conjoints, hommes ou femmes, d'ambassadeurs qui commettent des gaffes par méconnaissance du milieu dans lequel ils arrivent. L'ambassadeur, en général, connaît le milieu où il arrive.
Oui.
Il a étudié, il a eu pendant 2 ou 3 mois où il a été pressenti, il a eu le temps de préparer sa mission. Puis sa culture internationale fait que, en général, il connaît le milieu où il arrive. Pas toujours les conjoints. Et je citerai la gaffe, on pourrait dire la bourde même, de Barbara Bush, épouse de George Bush, donc le père senior, qui deviendra président des États-Unis, mais qui était alors vice-président de Ronald Reagan et qui, en voyage officiel, en visite officielle au Japon, bien sûr, participent à un dîner très protocolaire dans le palais impérial de Hirohito, l'empereur du Japon, qui était encore Hirohito à l'époque. C'était le tout début des années 80. Et comme l'empereur du Japon parle de son nouveau palais impérial, Barbara Bush, intriguée, lui demande « Mais qu'avez-vous fait de l'ancien? Pourquoi avez-vous déménagé ?» Et l'empereur dit « Écoutez, madame, si mes souvenirs sont bons, je crois bien que vous l'auriez bombardé. »
Ah, c'est une réponse terrible.
Oui.
Et définitive.
Ouais, définitive, je pense.
Bien, les gens en poste, comme vous le dites tellement bien et comme vous l'expliquez dans votre ouvrage, respectent les rituels, mais quelquefois la position du conjoint ou de la conjointe qui n'est pas tout à fait au courant des mœurs diplomatiques peut être amenée à être en position délicate. Et de nos jours, notamment dans le corps diplomatique français, il y a de plus en plus de dames. Est-ce qu'il est difficile d'être le mari de l'ambassadeur ?
Sur le plan protocolaire, d'abord, les choses se sont arrangées. Au tout début, avec les premières ambassadrices, on ne savait pas où le mettre, il faut bien dire. On ne savait pas bien où le mettre à table. Parce que si on l'avait mis dans la position où on met l'épouse de l'ambassadeur, normalement, il aurait été encadré de deux autres hommes. Et donc, ça ne pouvait pas aller. Donc, on lui a donné une place d'honneur quand même, mais qui est différente de celle que l'on donne à l'épouse de l'ambassadeur. Mais bon, on le traite comme
un prince consort.
Un prince consort, on va dire. On le met au niveau d'un des tout premiers conseillers de l'ambassadeur, en équivalence. Alors, cela dit, les maris d'ambassadrices, les conjoints d'ambassadrices, peuvent assez rarement suivre leur épouse en poste parce que, par définition, sauf à ce qu'ils soient à la retraite, ils ont un métier qu'il leur est difficile d'abandonner. Et ça arrive de plus souvent avec les épouses d'ambassadeurs maintenant. De plus en plus d'ambassadeurs ou de diplomates sont en situation de célibat géographique, comme l'on dit. Mais quand il peut arriver qu'un conjoint d'ambassadrice suive, dans ce cas-là, je pense qu'il y a... Maintenant, le nombre d'ambassadrices a augmenté, fort heureusement, c'est une excellente chose. Et il n'est plus rare de voir un mari de Madame l'ambassadeur, comme on disait autrefois, avant que le langage évolue lui aussi.
La formule est jolie.
Mais le mari de l'ambassadeur, ça sonnait mal quand même.
Oui, donc. Un peu. Un des aspects les plus légendaires du métier diplomatique, c'est la fameuse valise. C'est la correspondance, c'est le courrier. Vous m'avez appris, professeur Pancratio, que la correspondance et le courrier étaient en fait deux choses très différentes.
Absolument. S'il y a un domaine où on les distingue, c'est peut-être le seul domaine où on les distingue, c'est la diplomatie. Parce que le courrier, par définition, étymologiquement, c'est celui qui court. Donc le courrier est une personne en fait, c'est celui qui apporte le courrier et le courrier confidentiel. Et c'est venu d'une pratique de nos rois, les rois de France, qui pour adresser des dépêches diplomatiques et souvent secrètes à toutes les cours d'Europe, avaient constitué un corps de cavaliers particuliers qu'on appelait les chevaucheurs du roi. Et c'est pour eux au début, c'est pas tellement pour les usagers, les particuliers, c'est pour eux qu'a été conçu le système de la poste avec ses relais de chevaux qui sont de 28 km en 28 km, qui font 7 lieues. Qui faisait 7 lieues,
d'où les bottes de 7 lieues.
Les fameuses bottes de 7 lieues dans les contes de Perrault. 28 km, c'était la distance sur laquelle un chevaucheur du roi pouvait pousser son cheval pour aller le plus vite possible sans faire périr, sans l'éreinter, en quelque sorte. Il fallait arrêter au bout de 28 km. Et le courrier donc
explique alors
portait
aussi
les dépêches. Oui. Et il portait la correspondance. La correspondance,
c'est le courrier
message
matérialisé.
Voilà. Courrier matérialisé.
Très bien.
Alors là, vous avez évoqué la valise diplomatique. On peut en dire un mot parce que là aussi, la valise diplomatique, le terme s'applique normalement à un sac. On a d'abord l'anglais dit diplomatic bag, donc le sac diplomatique. En toute hypothèse, quelque chose, un contenant que l'on peut porter à main ou à dos d'homme. Mais on a vu des abus en matière de valises diplomatiques. Par exemple, des conteneurs sur un bateau être estampillés valises diplomatiques. C'est arrivé.
C'est arrivé.
De la part des Soviétiques, oui, sur un bateau qui arrivait sur le Rio de la Plata à Los Angeles où il y avait des conteneurs estampillés valises diplomatiques, qui sont d'ailleurs repartis. Les Argentins les ont refusés en tant que valises diplomatiques, puisqu'ils n'avaient pas le droit de s'assurer du contenu.
Oui. C'était des grosses valises.
Oui. Mais on a vu un camion, au temps de l'Union soviétique, un camion arrivé à la frontière germano-suisse à Bâle, un camion complètement fermé, suivi d'une voiture qui accompagnait d'agents secrets et de diplomates soviétiques, et arrivé à la frontière suisse. Et le camion était destiné à l'ambassade soviétique auprès de l'ONU à Genève, pas auprès mais à Genève. Et les diplomates accompagnateurs n'ont jamais voulu que les douaniers ouvrent ce camion. Ils se sont dit « c'est une valise diplomatique soviétique ». Alors finalement, au bout d'une journée de tergiversation, les Suisses ont fini par laisser partir le camion, qui n'est plus jamais ressorti. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Sans doute y avait-il des systèmes d'écoute à l'intérieur, parce que Genève est une ville magnifiquement placée pour écouter un peu la France, l'Italie, l'Allemagne, un peu tout le monde. Et il n'est plus jamais ressorti de l'enceinte de l'ambassade.
Ah bon, il est peut-être dans le lac des Quatre Cantons.
C'est possible.
C'est possible. dans le courrier écrit... Il y a un terme qui n'est pas très courant, ou du moins qui est d'un usage très différent de celui que vous allez nous expliquer, c'est le terme de vedette. Qu'est-ce qu'une vedette ?
Alors là, on distingue effectivement dans la correspondance, la vedette et le traitement. La vedette, c'est le terme par lequel on appelle le titre, par lequel, que l'on met en tête, en tête de l'être en quelque sorte. Si vous vous adressez au pape, vous dites « très Saint-Père », virgule, et en dessous, vous commencez votre lettre. Et dans le corps de la lettre, vous traitez le Saint-Père sous une autre appellation. Vous pouvez lui dire...
Cher Benoît.
Oui, par exemple, si vous êtes un intime. Non, mais vous pouvez dire Saint-Père, par exemple. Si on enlève le trait... On n'emploie pas majesté, on le réserve à un roi. Mais pour un roi, à la reine d'Angleterre, on dira « madame ».
Tout simplement.
Voilà. Et dans le corps du développement de la lettre, on dira « votre majesté ».
Et monseigneur, on le réserve à qui ?
Alors, monseigneur, c'est un ecclésiastique ou un prince, un prince régnant. Le prince de Monaco, on l'appelle monseigneur.
Très bien.
Ouais. Prince Albert II, à l'heure actuelle, c'est
monseigneur. Le prince Albert II, c'est monseigneur. Ouais.
Le grand-duc du Luxembourg, c'est Monseigneur.
La papauté, le Vatican, l'Église catholique ont eu beaucoup d'influence à la fois sur la pratique diplomatique et sur le vocabulaire de la diplomatie. Vous expliquez dans un article de votre ouvrage qu'il y a une différence entre le Saint-Siège et le Vatican.
Absolument. À Saint-Pierre de Rome, en quelque sorte, il y a deux souverainetés. On les confond souvent, et c'est la raison pour laquelle, par confusion, on parle des ambassadeurs du Vatican, alors qu'ils ne sont pas du tout ambassadeurs du Vatican, ils sont ambassadeurs du souverain pontife, ambassadeurs du Saint-Siège. Le Vatican n'a pas d'ambassadeur. C'est un petit État, le plus petit État de la planète, 0,44 km².
Je crois que c'est plus petit que le Bois de Boulogne.
Absolument, plus petit que le Bois de Boulogne, mais tout de même, c'est dans le centre de Rome. Un bel emplacement sur la colline du Vatican, qui est une des 7 collines de Rome. Et ce petit État, c'est un vrai État, donc reconnu par la République italienne, donc c'est un véritable État, enclavé certes, mais un État indépendant, qui a sa radio, sa ligne de chemin de fer, sa poste avec les timbres, qui frappe monnaie, l'euro à l'effigie du souverain pontife, qui a un journal officiel, l'Osservatore Romano, etc. Donc, qui a des employés, qui a une gendarmerie, qu'il ne faut pas confondre avec les Suisses, les gardes suisses, qui a un gouverneur, qui habite un palais, qui est derrière Saint-Pierre. Voilà. Donc, c'est un véritable État, mais c'est la gangue protectrice de la souveraineté du Saint-Siège, en quelque sorte. Et le Saint-Siège, lui, il est souverain parce que, d'abord, lorsque les empereurs romains ont fui Rome à l'arrivée des barbares, lors des invasions barbares, Eh bien, il n'y a que l'évêque de Rome qui commençait à être reconnu comme pape. Hein, ça s'est fait progressivement là aussi. C'est l'évêque de Rome qui assurait la continuité de la vie romaine, de l'administration romaine, et qui est devenu en quelque sorte un successeur des empereurs romains d'Occident, puisqu'ils étaient partis en Orient, puisqu'ils étaient partis à Byzance. C'est de là que le pape est devenu, et l'est resté par tradition, même s'il ne règne plus que sur un tout petit territoire aujourd'hui, c'est de là que le pape est devenu un souverain temporel aussi, c'est-à-dire avec un territoire qui était très important au Moyen-Âge, et cela jusqu'en 1870, c'est-à-dire à la formation de l'unité italienne, où le pape a perdu ses territoires, il ne lui restait plus que Saint-Pierre. Il avait un territoire comprenant tout le sud de l'Italie, allant de l'Émilie-Romagne jusqu'au fond de la botte, c'est-à-dire plus de 100 000 km², avec plusieurs millions d'habitants. Il régnait aussi sur une grande population, il avait une armée, etc.
Oui, avec des revenus considérables,
je suppose. Avec des revenus, bien sûr, considérables. Et donc, le pape a été très longtemps, jusqu'à un peu plus d'un siècle aujourd'hui, un souverain temporel, en même temps que exerçant une souveraineté spirituelle. Le fait qu'il est successeur de Saint-Pierre, du premier évêque de Rome.
Est-ce qu'on peut dire que le pape rassemble sur lui, en fait, une triple souveraineté à la fois personnelle, temporelle, du fait de l'histoire, tout simplement, et spirituelle, du fait qu'il est le chef de l'Église catholique.
Oui, je dirais qu'à Ibit, on peut presque dire, en effet, qu'il en a trois. Il en a au moins deux, je dirais. Oui. Et il incarne le Saint-Siège, il est l'incarnation physique du Saint-Siège. Donc, il exerce la souveraineté du Saint-Siège, c'est sur lui qu'elle repose. Et il est le chef d'État de la cité du Vatican, dans ce qu'on appelle l'État de la cité du Vatican, en titre officiel. Donc, il a une deuxième. On pourrait dire qu'il a un magistère spirituel, qui est une troisième souveraineté, éventuellement. Mais il en a au moins deux, qui lui sont reconnus, là, par la société internationale.
Le Vatican siège à l'ONU ?
Alors, non, il ne siège pas, là encore, ce n'est pas le Vatican qui siège à l'ONU, c'est le Saint-Siège, mais il n'a qu'un siège d'observateur.
Il est observateur.
Observateur à l'Assemblée Générale et dans un certain nombre de comités, comme le Haut Comité des Réfugiés, par exemple, le HCR, Haut Comité aux Réfugiés, il en fait partie. Mais ça permet au Saint-Siège d'avoir une représentation officiel auprès de l'ONU et d'être présent, de pouvoir jouer de son influence éventuellement.
Professeur Pancratio, pour terminer cet entretien passionnant, nous resterions avec vous pendant des heures.
C'est gentil.
Diplomatiques. Pouvons-nous parler un peu du protocole diplomatique ?
Oui, alors le protocole, il faut le distinguer du cérémonial. On définit souvent des termes par rapport à d'autres qui sont voisins. Alors, le protocole, ça vient de préséance. C'est l'organisation. Il y a le préfixe pro dedans, préséance, protocole
premier.
Premier, voilà. Donc, c'est l'ordre des préséances dans lesquelles on dispose les gens lors d'une cérémonie officielle, d'une commémoration, etc. Et quand le corps diplomatique est présent à une cérémonie, il y a un ordre de préséance. Voilà, les ambassadeurs sont classés par, en général, derrière le doyen du corps diplomatique, qui est souvent le nonce apostolique, l'ambassadeur du pape, dans les États qui sont à confession catholique majoritaire, on va dire. Et sinon, derrière lui, il y a les ambassadeurs par rang d'arrivée dans leur poste. Du plus ancien dans le poste, dans la capitale, au plus récent. Alors, le cérémonial, c'est l'organisation, c'est l'aménagement de toutes les cérémonies. Donc, c'est l'organisation générale, on va dire, de toutes les cérémonies, de toutes les manifestations, des repas, etc.
Donc, il ne faut pas confondre. Et alors, comme les ambassadeurs font leur entrée dans leur ordre d'arrivée, je dirais, un peu comme au Tour de France, si l'ambassadeur des États-Unis est le dernier arrivé en poste, il passera le dernier.
Il passera le dernier.
Eh bien, c'est...
Justice sera rendue aux petits.
Voilà. Professeur Jean-Paul Pancratio, nous vous remercions de cet entretien passionnant dans le cadre de la chronique « Les mots de ». Aujourd'hui, c'était les mots de la diplomatie, dont beaucoup de propos ont été extraits de votre dictionnaire de la diplomatie, publié chez Dalloz. Merci beaucoup, professeur.
C'est moi qui vous remercie.